Fatalitas, chapitre 25. Fin d'une carrière mondaine. Nina Noah était retournée à Paris pour un numéro de danse qu'elle devait donner à la petite salle Favard. C'était le soir de la répétition générale. La loge était déjà pleine de fleurs. Il n'y manquait que la gerbe de Gorbio et Gorbio lui-même. Que pouvait faire le comte ? Il était parti la veille pour le château de Laboulaye. L'affaire devait être d'importance puisqu'il y avait passé la nuit. Soudain, on frappa et la porte s'ouvrit sans qu'on eût attendu la réponse. C'était Gorbio. Il était très pâle. Nina vit qu'il se passait quelque chose de grave. Elle congédia ses servantes. « Eh bien, comte, que devenez-vous ? »
« Nina, je crois que je suis suivie. »
D'un bond, elle se releva de son sofa.
« Comment vous êtes suivie ? Et c'est chez moi que vous venez ? »
fit-elle d'une voix sourde pleine de menaces et de colère.
« Je viens de m'en apercevoir à l'instant, mais je me suis peut-être trompée. »«
Ah, bien, de la pusillanimité alors, c'est autre chose. Racontez-moi ce qui vous est arrivé pour que je vous rassure. »«
Mais ce n'est pas de la pusillanimité, c'est de la peur. »
De mieux en mieux, je ne vous reconnais plus, lui jeta-t-elle avec un certain mépris. Gorbio s'était assis et passait un mouchoir sur son front glacé.
J'ai peur de m'être laissé rouler par la boulet.
Comment cela ?
Dites vite !
Et elle le regardait d'un air dénué de toute amitié. Si le comte avait commis quelque gaffe, elle ne le lui pardonnerait jamais. Chose singulière. L'admiration qu'elle avait eue pour lui était tombée depuis son mariage manqué avec Mademoiselle de Laboulaye, ce qui prouvait bien que Nina faisait passer ses affaires avant l'amour. Le duel malheureux du comte avait encore ajouté à sa désillusion. Et, depuis qu'il avait été si cruellement blessé dans sa chair et dans son amour-propre, elle trouvait qu'il avait beaucoup baissé. Gorbio lui narrait rapidement ce qui s'était passé la journée précédente entre lui et Monsieur de Laboulaye, l'histoire du dossier.
« Ce dossier était des plus intéressants. J'ai passé ma nuit à le collationner et à prendre des notes. Je crains que l'on ne m'ait vu prendre des notes. »«
Mais quoi de plus naturel ? On vous mettait dans l'affaire. C'était votre devoir de prendre des notes. »«
Écoutez-moi, je vous prie. Je crains... »
« Je vois que maintenant vous craignez tout. »«
Oui, tout. Je crains que ce dossier ne soit un faux dossier et que l'on m'ait ainsi tendu un piège. »«
Quel piège ? En admettant votre hypothèse, vous croyez le dossier sérieux et dans votre bonne foi vous prenez des notes. Que peut-on vous reprocher ? » ?»«
Eh, ma chère, on peut me reprocher d'avoir communiqué ces notes qui doivent rester secrètes. »«
À qui les avez-vous communiquées ? »
« À F24 et à C12. »«
À F24 et à C12 ? Mais personne n'en sait rien, j'espère !»
commença-t-elle à gronder.
« Moi aussi, je l'espère, mais maintenant je n'en suis plus sûre. »«
Depuis quand ?»«
Depuis qu'en arrivant ici, j'ai découvert, en me retournant sur le seuil de l'entrée des artistes, deux figures suspectes sur le trottoir. »«
C'est tout ?»
Ça puait la police, ma chère.
Je crois, heureusement pour vous, que vous vous faites les plus noires illusions. Vous allez me faire le plaisir de reprendre votre sourire et d'aller rejoindre vos amis dans la salle. En tout cas, puisque vous avez d'aussi étranges hallucinations, ne revenez plus ici ce soir. Ça me gênerait pour mes entrées.
Le comte se leva. Les paroles de la danseuse ne l'avaient nullement rassuré. Il paraissait de plus en plus préoccupé.
« Ah, un dernier mot, mon cher comte.
Si, par hasard, il vous arrivait malheur, arrangez-vous pour que je n'en sois gêné en rien, je vous prie. »
Gorbio, devant cette menace, tressaillit.
« M'abandonneriez-vous, Nina ? » ?»«
Comment, si je vous abandonnerais ? Mais je ne me souviendrai même plus de vous avoir connu, et votre intérêt serait de m'oublier de même. »
« Mon intérêt ?
Oui, souvenez-vous de l'affaire Reynaud. J'ai encore toutes vos lettres et la perle. Vous voyez combien ce serait dommage que l'on perquisitionnât chez moi. »
Gorbio avait compris. Il se retira en proie au plus sinistre pressentiment. Nina paraissait à la fin du premier acte. Elle obtint un triomphe. Toute la salle debout l'applaudissait. Elle aperçut le comte dans une loge. Il avait repris son sang-froid. En tout cas, faisait bonne figure. Elle lui en sut gré. Si vraiment il était à 5 minutes d'une arrestation, il ne manquait pas d'un certain plastron. Cependant, elle ne manqua point dans l'entracte, alors que tous ses admirateurs se pressaient dans la loge, de souligner l'absence du comte. On s'en étonna. « Oui, nous sommes en froid depuis quelque temps. » Soudain, le flirt auquel elle avait fait précédemment ses confidences se précipita dans la loge. « On vient d'arrêter le comte de Gorbio !» Ce fut un émoi indescriptible. Nina seule conservait son calme. « L'arrêter ? Pourquoi ? » disait-elle en refaisant son maquillage. « Il est vrai que depuis quelque temps, il paraissait préoccupé. Mais il ne me disait rien, comme toujours. Du reste, depuis longtemps, nous n'étions plus que de vieux amis. » Chapitre 26. L'auberge des pins. Le père Césaire était en train de lever le premier volet de son établissement quand le bruit d'un moteur sur l'eau lui fit tourner la tête. Et presque aussitôt, il aperçut, doublant le promontoire qui protégeait contre les regards indiscrets l'auberge des pins, un canot automobile qui se dirigeait dard-dard vers son rustique embarcadère. En même temps, un certain coup de sifflet le renseigna, d'une façon précise, sur la nature de la visite qu'on venait lui faire, car, lâchant là son volet, il courut jusqu'au bord de l'eau. « Bonjour, Césaire !» jeta la voix d'Arigonde. « Pas d'étranger dans ta cambuse ?»« Personne, monsieur. Les copains du mât sont partis dans la nuit. Je ne les reverrai pas avant demain soir. La maison vous appartient. Je vois que vous apportez du gibier. » « Pécaïre, de la chair fraîche même. »« Bonjour, monsieur Nicopoli. »« Comment va le capitaine ?»« J'espère qu'il est en bonne santé. On bavardera tout à l'heure. Aide-nous à rentrer la prise. » Pallas fut débarqué le premier. Il n'essaya point la moindre résistance entre ces 4 hommes armés jusqu'aux dents et qu'il sentait prêt à le brûler au premier geste. Si ce n'était chose faite, il devait certainement mettre une si patiente générosité au compte du plaisir que prenait Arigonde à prolonger son supplice. Le père et la fille étaient entre de bonnes mains. Toute l'intelligence de Pallas, toute sa lucidité était tendue vers ce seul but, sauver Gisèle. Aussi écoutait-il et regardait-il, et cela sans qu'il y parût, car dans le moment, il affectait un abattement suprême, un épuisement absolu destiné à tromper ses geôliers et son bourreau. Quand on le fit sortir de l'embarcation, il ne tourna même pas la tête du côté de Gisèle, ce qui apparaissait bien comme la preuve absolue de sa misère physique et morale. Ils le descendirent à la cave, le jetèrent dans un cachot que n'éclairait aucun soupirail, resserrèrent ses liens et l'attachèrent encore par un pied à une chaîne qui était scellée dans la muraille. « Comme ça, lui dit Arigonde, tu ne feras pas de bêtises, et il ne t'arrivera pas de malheur. J'ai promis à Gorbio de veiller sur toi. Si tu es bien sage, je viendrai te voir de temps en temps avec ta fille, quand nous serons mariés. À part ça, tu commanderas ton menu. Le père Césaire n'a rien à te refuser. C'est moi qui paie. » Et ils refermèrent sur lui la lourde porte dont ils tirèrent soigneusement les verrous. Gisèle, qui ne donnait d'autre signe de vie que le gémissement qui s'échappait par instants de ses lèvres exsangues, fut portée, plus que conduite, dans une chambre de l'établissement, si tant est que l'on puisse décorer de ce nom les réduits de l'auberge des pins. Et maintenant, en attendant le dessert, à table, commanda Arigonde. « Moi, j'ai une faim de loup. » Ils s'installèrent sur la terrasse. À cette heure, ils ne risquaient pas d'être dérangés. Du reste, le père Césaire recevait de rares visites. on le savait peu hospitalier, et de méchants bruits couraient sur son établissement. Il laissait dire, ça l'arrangeait. L'endroit où s'élevait l'auberge était isolé, loin de toute route fréquentée, dans un creux de la côte dangereux pour la navigation. Cela n'empêchait point que l'endroit fût charmant, et sous les premiers rayons du jour, cette bicoque sur son fond de verdure avec son collier de rochers rouges au bord de la mer d'azur n'éveillait aucune idée sinistre. Arrigonde, Césaire et Nicopoli déjeunèrent le plus gaiement du monde et burent comme d'aimables garçons qui ont la conscience tranquille et qui se réjouissent de la prospérité de leurs affaires. Césaire avait bien remarqué que le front de monsieur de Saint-Yves était un peu amoché et que la tenue de ses hôtes était fort négligée. Mais il avait eu bien garde de ne faire la moindre allusion à ces détails, pas plus qu'il ne montrait du reste de curiosité pour les origines de la double capture que l'on venait de lui confier. Il ne manqua point cependant de demander des nouvelles de monsieur le comte. « Monsieur le comte va toujours bien ?» Ils burent à la santé de monsieur le comte. Soit par crainte, soit par reconnaissance, ils ne tarirent point d'éloges à son endroit. Monsieur Césaire prétendait que c'était l'homme le plus puissant de France, que l'on n'avait rien à lui refuser, et qu'il n'y avait point de mauvais cas duquel il ne sût tirer ses amis. Voilà un homme avec qui c'est tout bénéfice de travailler. Du reste, il leur avait promis la fortune à tous. « Oui, eh bien, en attendant que la fortune vienne, je vais aller me reposer, » déclara le Parisien. « Compris, » ricana ignoblement Nicopoli. « Dans les bras de l'amour, » fit monsieur Césaire en clignant de l'œil du côté de la chambre où ces misérables avaient jeté Gisèle. « Faut-il que j'aille chercher monsieur le maire ?» Arrigonde ne les écoutait plus. Cependant, sur le seuil de l'auberge, il se retourna. « Hein, si vous entendez du bruit, ne vous croyez pas obligé de venir voir ce qui se passe. » Les deux autres s'esclaffèrent et il disparut dans l'établissement. « Il a raison de nous prévenir, » se moqua Nicopoli. « Elle en fait un raffut, la petite, quand il veut l'embrasser. Je parie que nous allons encore rigoler. Tu vas entendre ça tout à l'heure. » Ils appelèrent le matelot de la Tullia qui était resté à bord du canot automobile et ils vidèrent encore une bouteille. De temps en temps, il se taisait, le regard posé sur les persiennes closes. Et en effet, ils perçurent bientôt un certain tumulte, des cris, puis plus rien. Puis cela recommença. « Dis donc, » fit Nicopoli, « il n'y a pas que nous qui trinquons ici. Je crois que tes meubles ont leur part. » « Ton Louis XVI prend quelque chose. » Le matelot, lui, chantonnait une barcarolle italienne où il était dit que c'était une très belle chose que l'amour. Sur ces entrefaites, le facteur survint. Il donna le courrier à Césaire, un journal et deux lettres, accepta de boire un verre, prêta une seconde l'oreille au bruit de l'auberge. « Fais pas attention, » lui dit Césaire. C'est un ménage qui ne fait que se disputer. » Et il s'en alla. Césaire ouvrit le journal et aussitôt poussa une exclamation. « Ah non, ça n'est pas possible !»« Quoi donc ?» Voyant Césaire extraordinairement ému et tout pâle, Nicopoli lui arracha le journal où s'étalait une manchette énorme « Arrestation du comte Stanislas de Gorbio ». Ils n'en pouvaient croire leurs yeux. Il relisait les 10 lignes du télégramme de l'agence sans comprendre. Enfin, ils durent se rendre à l'évidence. Le tout-puissant seigneur de Gorbio avait été arrêté à sa sortie du petit théâtre de la salle Favard pendant un entr'acte. On avait saisi sur lui des papiers compromettants. Le bruit courait que le comte était à la tête d'une organisation puissante servant les intérêts étrangers. Organisation qui avait des ramifications sur tout le territoire. Des commissions rogatoires avaient été envoyées dans toutes les villes où Gorbio avait séjourné. À Nice, particulièrement, l'enquête, commencée dans le plus grand secret, promettaient de prompts résultats et de retentissants scandales. Les figures de Césaire et Nicopolis étaient terriblement allongées.
« Ah bien, c'est fini de rire !» grogna le patron de l'auberge des Pins.
« Et si on avertissait Saint-Tine ?»
Dans le même moment, ils relevèrent la tête du côté de la fenêtre aux persiennes closes. Quel drame se passait encore là ! Les bruits de lutte semblaient avoir repris avec une force nouvelle. Et puis, tout à coup, le silence, un silence plus effrayant que tout le tumulte qui l'avait précédé.
« Prévenir Saint-Tine ? » répéta Nicopoli.
« Si tu savais ce que je m'en fous, qu'il se débrouille. Moi, je me trotte en Italie. Adieu, Césaire. »
Il était déjà levé. Il s'arrêta un instant devant un gamin sordide qui sortait du bois en agitant ses loques.
« Le bambino !» fit Césaire. « Qu'est-ce qu'il veut ?»
Le bambino courut à Césaire.
« Le padre m'a dit d'aller vous prévenir. Les macaques arrivent par le bois et par le rocher rouge. »«
Nom de... les gendarmes !» glapit Césaire.
« Attends-moi 2 secondes. Je te suis, Nicopoli. »
Et il entra dans sa bicoque pour y ramasser son magot. Quand il en ressortit, il jura encore d'une façon effroyable. Nicopoli ne l'avait pas attendu, et le canot automobile disparaissait derrière le cap, filant droit sur l'Italie. Alors, il se jeta dans le bois avec le bambino. Et l'auberge des Pins paraissait déserte et abandonnée, quand parurent les gendarmes. Chapitre 27. La chambre aux persiennes closes. Quand Arrigon pénétra dans la chambre où ses complices et lui avaient enfermé Gisèle, il se trouva en présence d'un tableau qui eut arraché des larmes aux plus insensibles. Le jour doré qui filtrait à travers les persiennes éclairait, jeté sur une couche rustique, l'image la plus gracieuse, mais aussi la plus douloureuse qui se pût concevoir de la captivité. Des vêtements en lambeaux recouvraient à peine cette chair jeune qui avait déjà tant souffert. Des liens rugueux la meurtrissaient. La tête tombée sur l'épaule, les paupières closes, les lèvres exsangues attestaient que la vie n'était plus qu'en suspens dans cette enveloppe fragile. Seule était bien vivante la chevelure de flamme, touchée par les premières flèches d'or du matin. Tant de faiblesses réunies à tant de souffrances n'étaient point capables cependant d'émouvoir Arrigonde. Nous voulons dire de l'attendrir, car, ému, il le fut en effet, en ce sens que sa sauvagerie naturelle lui fit goûter une allégresse diabolique en face d'une proie que rien ne pouvait plus lui ravir et qui, à son cœur de forment, paraissait d'autant plus séduisante qu'elle portait déjà les marques de sa cruauté. Il appela Gisèle, mais rien ne lui répondit. La pauvre fille n'avait même point tressailli. Il se pencha rapidement sur le corps inerte et s'assura qu'il y avait encore là de la douleur vivante. Il ne s'agissait que de la réveiller. Avec un ricanement affreux, il commença de détacher les cordes. Mais ses doigts tremblaient d'une fièvre abominable, et il ne sortait pas assez vite de tous ses nœuds compliqués. Si bien que, dans son impatience, il prit son couteau de poche, ce terrible couteau des matelots avec lequel ils se font les ongles et la peau, et en ayant ouvert brusquement la lame, il trancha. Gisèle poussa aussitôt un long soupir. Alors le Parisien jeta son couteau et prit Gisèle dans ses bras. Elle le fixait maintenant de ses grands yeux, au fond desquels il y avait toute l'horreur du monde, car il l'embrassait. Oui, il lui imposait son ignoble baiser. Cet homme qui avait fait ses plaies prétendait les guérir avec sa bave. Or, il arriva ceci. Dans le moment, les bras du misérable étaient les liens les plus solides qui eussent encore emprisonné Gisèle. Elle était perdue. Et il put le croire, car il eut un rire triomphant. Mais voilà qu'elle lui cracha à la figure. Fou furieux, il la lâcha une seconde. Elle était déjà loin de lui. L'extrême faiblesse touche à l'extrême force quand elle est galvanisée par la peur, par l'horreur, par la volonté de mourir plutôt que de céder. Ce fut une lutte prodigieuse entre ces deux êtres si dissemblables, entre cette grâce fuyante, entre cette souplesse de chat qui griffe et qui mord, et cette bestialité dont un geste pouvait tout briser. L'homme n'eut pas toujours l'avantage, et tous les cris de douleur ne furent pas poussés par Gisèle. Ses cris, le bruit de la lutte, les gars qui buvaient alors sur la terrasse de l'auberge ne furent pas seuls à les entendre. Ils parvinrent jusqu'au cachot de Pallas. Le malheureux ne les avait pas attendus pour commencer sa besogne de libération, mais ils décuplèrent son énergie. Pallas avait d'abord essayé de scier l'un de ses liens avec ses dents. Puis il s'était traîné jusqu'à une barrique roulée dans un coin du cachot et avait réussi à finir d'user sa corde en la frottant à un cercle de fer. Le premier lien parti, le reste n'était plus qu'une question de patience. Mais il n'avait pas le temps d'avoir de la patience. En entendant les cris de Gisèle, il rugissait, prétendait d'un seul coup à tout faire sauter. Il ne faisait plus rien de bon maintenant. Aussi eut-il cette volonté suprême d'agir avec méthode, comme s'il avait tout son temps devant lui. Quelques minutes plus tard, il était libre de toute entrave, ayant desserré l'écrou qui serrait à son pied le bracelet de fer. Il ne restait plus en face de lui qu'une vieille porte. Seulement, Gisèle ne criait plus. Dans la chambre, Arigonde avait fini par venir à bout de la résistance désespérée de la jeune fille. Profitant d'un moment où, haletante, elle s'était accrochée, épuisée, à la commode, il s'était glissé derrière elle et l'avait saisie de telle sorte qu'aucun des gestes de la malheureuse ne pouvait l'atteindre. Alors il la souleva et allait la rejeter quasi assommée sur les dalles, quand Gisèle, dont la main traînait sur le meuble, sentit sous ses doigts un couteau. C'était le couteau qui avait servi à trancher ses cordes. Ses doigts se refermèrent dessus. Elle poussa un dernier cri. « Pas vivante !» Et elle s'enfonça l'arme avec la dernière force du désespoir dans sa gorge nue. Le Parisien fut tout éclaboussé du sang de la Vierge. Il la laissa glisser d'entre ses bras et elle ne fut plus sur le carreau qu'une pauvre petite chose qui allait mourir. Cette affreuse conclusion n'était certes point dans le programme d'Arigonde. Il se pencha avec une exclamation de rage sur ce corps palpitant qui agonisait. Il avait eu raison de la résistance de cet enfant, mais cet enfant lui échappait dans la mort. Et pour la première fois, il maudit la mort qui ne l'avait pas servi, qui avait cessé d'être sa complice. Il se releva, écumant encore de la lutte, vociférant sourdement contre un destin tragique qui lui volait ses amours. Et ses mains sanglantes, en cherchant à s'essuyer au mur et au meuble, traçaient autour de lui des gestes rouges. Soudain, la porte sauta et il se trouva en face de Pallas. « Ma fille !» Hélas, il vit ce que l'autre en avait fait de sa fille. Dès lors, il n'y eut plus un cri. Une lutte à mort commença entre les deux hommes. Ils roulèrent à terre, noués, s'étouffant, se brisant, se sonnant la tête sur les dalles, s'étreignant la gorge, se déchirant des dents comme des fauves au combat. Tantôt c'était le Parisien qui avait le dessus, tantôt c'était Pallas. Cependant, Pallas sentait ses forces s'en aller. Il était au bout de l'effort prodigieux qu'il fournissait depuis 2 jours et 2 nuits. Allait-il succomber ? Il eût tant voulu vivre pour le tuer, lui, et pour savoir si elle était morte, elle. Eh bien, non, elle n'était pas morte. Elle rouvrit les yeux. Il y avait encore quelque chose qui ressemblait à de la vie dans ses yeux-là. Et si bien que tout à coup, les yeux comprirent. Arigonde pesait de tout ce qui lui restait de force sur la poitrine de Pallas, lui enfonçant ses genoux dans les côtes. Ses doigts assassins avaient saisi la gorge du vaincu, et il serrait, serrait. Un spasme formidable secouait sous lui les jambes de Pallas. Encore quelques secondes et tout était fini. Mais Gisèle s'était approchée, traînée dans son sang, jusqu'au couteau dont elle s'était frappée et qui avait roulé à ses pieds. L'étreinte des deux hommes avait été si rapide que ni l'un ni l'autre n'avait réussi à s'en emparer. Gisèle put l'atteindre. Alors elle se rapprocha encore, se souleva sur son coude, parvint à se mettre sur un genou. Elle leva l'arme. Le couteau ne tremblait point dans sa petite main, et elle l'enfonça dans le dos d'Arrigonde à trois reprises, jusqu'au manche. Et puis elle retomba inerte, pour continuer de mourir.
« Morte ! Morte, Gisèle !
Est-il vrai que Gisèle soit morte ? Si tu n'es pas morte, Gisèle, soulève encore une fois tes paupières. Regarde encore une fois ton père avant de le quitter pour toujours. Ne reste pas insensible à ses sanglots. Et un dernier tressaillement dans ses bras. » Mais ni un geste, ni un tressaillement ne répondirent aux embrassements éperdus de Pallas. Et tout à coup, la chambre se remplit. L'auberge est pleine de cris. Des hommes armés se précipitent. Deux gendarmes surgissent au milieu de cette scène de meurtre et de sang. Arrigonde, lui, n'est pas mort. Sa tête se soulève. Il a quelque chose à dire avant d'expirer.
« Cet homme, dit-il, nous a assassinés, mon ami et moi, par jalousie. C'est un échappé du bagne, le numéro 3213. »
Et il mourut. Telles furent les dernières paroles d'Arrigonde, surnommée aux îles du Salut le Parisien. Quelques instants plus tard, une auto était arrêtée dans la rue d'un village voisin par une foule au milieu de laquelle s'avançaient deux gendarmes et, entre eux, des menottes au poignet, un homme couvert de sang. Françoise, qui se trouvait dans l'auto avec Chérie Bibi, demanda « Qu'est-ce que c'est ?» On lui répondit « C'est un forçat échappé du bagne qui vient encore de faire un sale coup. » Elle se souleva, reconnut Pallas et tomba évanouie dans les bras de Chérie Bibi. Celui-ci avait tout vu, entendu et compris. Il hurlait déjà vers le ciel « Fatalitas !» Chapitre 28. Monsieur et Madame Martins. Monsieur l'avocat général Martins, qui allait, ce jour-là même, occupé, comme on dit au palais, dans l'affaire d'Aumont, était un magistrat intègre, sévère pour les autres comme pour lui-même, d'une moralité à toute épreuve et d'un esprit étroit. Le devoir ne se paraît jamais chez lui du moindre à côté plaisant. Le plaisir, il l'avait ignoré toute sa vie. Il y a des âmes qui naissent maussades et peuvent accomplir de grandes choses. Mais on n'est pas heureux autour d'elles, et elles ne font point goûter la vertu. S'il survient à ces gens-là quelque avanie dans leur ménage, on ne les plaindra pas. Le malheur conjugal de M. Martins avait été ignoré de tous, aussi bien que de lui-même, mais beaucoup, s'ils l'avaient connu, n'eussent point manqué de trouver toutes sortes d'excuses à sa femme. Dans le fait, peut-être, n'aurait-on rencontré qu'une personne pour condamner la malheureuse, et cette personne n'était autre que Madame Martins elle-même. La pauvre créature, depuis cette heure de faiblesse qu'il avait jetée dans les bras du jeune Raoul de Saint-Dalmas, ne vivait que de remords et dans la terreur continuelle du châtiment. Elle savait que si jamais son mari apprenait sa faute, elle n'aurait à compter sur aucun pardon. Le droit du mari bafoué, l'orgueil du magistrat outragé, pousserait M. Martins au plus terrible éclat, et le déshonneur pour elle et pour sa famille était le moins qu'elle pût attendre. Tout ceci nous fait comprendre dans quel état d'esprit pouvait se trouver Madame Martins depuis l'affaire de l'auberge des Pins, et surtout depuis que, par une sorte de fatalité où elle voyait le retour d'un dieu vengeur, elle savait que c'était son mari qui allait prononcer le réquisitoire en cette cour d'assises de province devant laquelle l'affaire allait être évoquée. Le procès faisait un bruit considérable. Le nom de Monsieur de Laboulay, mêlé à un pareil scandale, le mariage de Françoise avec un forçat, les rumeurs qui couraient sur les points de contact que présentaient l'affaire Gorbiot et l'affaire d'Aumont, l'attitude bizarre de Nina Noah au cours de l'enquête, tout se réunissait pour exciter la curiosité publique. On avait retenu dans les hôtels des places 3 semaines à l'avance, et l'on se disputait les entrées de faveur à la cour d'assises. C'était en vain qu'au cours de l'enquête, Didier Daumont avait prétendu que Gisèle était sa fille et qu'il avait voulu la sauver des entreprises de son ancien compagnon de bagne. Il était accusé d'avoir assassiné ce dernier et tenté d'assassiner Gisèle par jalousie. Gisèle avait survécu à ses blessures, mais la raison de la pauvre petite semblait atteinte à jamais, et il avait fallu renoncer à tirer de ses brefs interrogatoires la moindre lueur sur l'affreux drame. Le parquet avait pensé un instant à lier l'affaire Daumont-Saint-Dalmas à l'affaire Gorbiot, mais l'enquête en ce qui concernait celui-ci menaçait de durer de longs mois encore, et l'opinion publique, très surexcitée, n'aurait vu là qu'un moyen dilatoire pour éloigner le châtiment d'un homme qui avait abusé de tous, mais qui disposait encore de puissants appuis. On en voulait surtout à Pallas d'avoir fait un instant figure de héros, pour redevenir si vite ce qu'il avait été tout d'abord, un assassin. Pallas avait donc une très mauvaise presse. Les exploits qu'il avait accomplis se retournaient contre lui. Quand on avait ainsi racheté un abominable passé, on ne perdait pas une seconde fois l'honneur en volant la confiance d'une honnête famille, en abusant de la candeur d'une jeune fille, en épousant un des plus beaux noms de France et en le traînant dans le plus ignoble des scandales. Les clameurs d'indignation de Françoise, ses cris de confiance dans l'innocence de son mari, ne faisaient que soulever la pitié autour d'elle. On l'admirait, elle, et on la plaignait. Elle était dans son rôle. Elle voulait sauver l'honneur du nom. Elle s'y employait seule, avec ses propres forces, car on ne voyait plus M. de la Boulaye. Très malade, il avait fermé sa porte à tous. Des témoins, au Cap Ferrat, avaient vu courir Mme Daumont sur la grève, la nuit, comme une folle. Des domestiques avaient déposé sur l'attitude singulière des époux et sur les larmes secrètes de leur maîtresse. Elle avait été belle, la lune de miel sur la Côte d'Azur. Et c'était un joli monsieur que ce monsieur Daumont. Le fait qu'il avait eu l'audace d'installer ce petit mannequin de Gisèle jusque chez lui, chez sa femme, mettait le comble à tant d'infamie. Le matin du jour où allaient s'ouvrir les débats pour lesquels on comptait plusieurs audiences, M. Martin se trouvait dans son cabinet de travail, revoyant et classant quelques pièces de son dossier, quand, derrière lui, la porte s'ouvrit sans qu'on eût frappé. Il tourna la tête et aperçut Mme Daumont, introduite discrètement par Mme Martins qui se retira. La figure de l'avocat général, qui avait d'abord marqué une furieuse irritation, devint de marbre. Il laissa venir à lui, ou plutôt se traîner vers lui, la malheureuse femme qui n'osait regarder ce masque glacé. Cependant, il l'arrêta charitablement dans le mouvement qu'elle fit pour se jeter à ses pieds. Il voulut parler, mais elle ne lui en laissa pas le temps. Ce n'était pas sa pitié qu'elle venait chercher, c'était sa justice. On ne l'avait jamais entendue. Certes, pendant toute cette affreuse enquête, elle avait parlé, mais les hommes à qui elle s'était adressée ou qui l'interrogeaient avaient écouté les mots qui sortaient de sa bouche sans jamais y croire, sans jamais essayer d'y croire. Si on avait essayé cela, alors on l'aurait entendue et on l'aurait comprise, car on serait descendu dans son cœur et on aurait bien vu qu'une femme comme elle n'aurait jamais continué à aimer un homme comme Didier si elle avait pu douter de son innocence, aussi bien pour le crime dont on l'avait accusé autrefois que pour celui d'aujourd'hui. « Il m'a toujours dit la vérité. Je savais que mon mari était un forçat évadé. Je savais cela. Je savais cela. C'est lui qui me l'avait dit. » Alors M. Martins daigna laisser tomber ces mots. « Avant ou après votre mariage ?» Françoise se releva en criant « Avant, avant, avant !» Il me l'avait dit avant mon mariage. Ah, vous voyez bien que c'est un honnête homme. Cet homme-là n'a jamais trompé personne. Il en est incapable, vous voyez bien. Avant.
Vous le jurez ?
Demanda le magistrat, cette fois réellement ému. Françoise vit cette émotion. C'était la première fois qu'elle obtenait un semblant d'intérêt chez cet homme de pierre. Elle n'hésita pas. Elle crut qu'elle allait sauver Didier.
« Je le jure !»«
Sur quoi ? Jurez-le donc sur le Christ !»«
Je le jure sur le Christ »
fit-elle plus pâle qu'une nappe d'autel. Et cependant qu'en son cœur, elle adressait une prière suprême à la divinité.
« Jésus me pardonnera et le sauvera !»«
Allons, madame, vous avez fait un faux serment. Vous n'avez pas encore l'habitude. Ici, du reste, ce n'est pas grave. Ce n'est qu'une affaire entre le Christ et vous. » Il sonna. Françoise, chancelante, s'appuyait au mur. « Vous a-t-il dit aussi, à vous, que Gisèle était sa fille ?»«
Oui, oui, il m'avait tout dit !»
La malheureuse ne savait plus ce qu'elle faisait, ce qu'elle disait. Le magistrat, la voyant dans un état voisin de la déraison, en eut pitié. Il s'avança vers elle et la soutint. Comme le domestique paraissait sur le seuil de son cabinet, il lui dit d'appeler Madame Martins. Celle-ci, qui attendait le résultat de cette suprême tentative avec une folle angoisse, accourut. « Reconduis ton ami, » fit-il à sa femme. « Madame Daumont a perdu complètement la tête. Elle prétend que son mari lui avait dit que Gisèle était sa fille. Elle a oublié qu'elle a déjà raconté à l'instruction que c'était toi qui lui avais apporté cette singulière nouvelle. » Françoise ne l'entendait plus. Elle ne les écoutait plus. Ces gens-là pouvaient bien se dire tout ce qu'ils voulaient, maintenant qu'elle était sûre qu'il n'y avait plus rien à faire avec eux. Elle les quitta, ou plutôt se sauva. À cette heure, Didier devait arriver au palais de justice. Elle y vola. Cependant, Madame Martins disait à son mari, qui lui reprochait en termes très durs d'avoir reçu une femme avec laquelle il lui avait ordonné de rompre, et d'avoir poussé l'audace jusqu'à l'introduire dans son cabinet de travail. Et si vraiment c'était sa fille ? Monsieur Martin haussa les épaules. « Une fois pour toutes, » prononça-t-il avec la dernière dureté, « je te prie de ne plus te mêler de cette affaire. On prétend que j'ai le cœur sec et que je suis incapable du moindre sentiment de charité. J'en ai cependant pour toi. Un autre, dans ma situation, ne t'aurait pas pardonné ce que tu as eu l'audace de faire sans m'avoir préalablement consulté. Et quand j'ai appris, du reste, que tu étais allé, de ta propre initiative, chez le juge d'instruction, pour lui affirmer que c'était un fait dont on parlait autrefois, dans les milieux où fréquentait le jeune Raoul de Saint-Dalmas, que celui-ci avait eu une liaison avec une femme du monde, et que de cette liaison un enfant était né, quand j'ai su que tu commettais cette imprudence, pire que cela, cette faute d'introduire dans cette affaire mon nom à moi qui allais requérir, ma colère dans l'instant t'aurait brisé. » Il s'arrêta un instant, suspendant le geste menaçant qu'il avait esquissé. « Et puis j'ai réfléchi, moi qui n'ai pas de cœur, et je me suis dit que ta vieille amitié pour Françoise, que tu avais connue enfant, pour Monsieur de la Boulay, qui était un ami de ton père, que ta tendresse pour une famille ainsi éprouvée t'avait fait inventer sur les prières de Madame Daumont cette histoire à dormir debout. Et je t'ai excusé, et je t'ai pardonné. Mais tu ne devais plus revoir Françoise. Tu ne devais plus recommencer tes folles démarches. Je ne dois qu'à l'amitié de l'avocat de ce misérable que tu ne sois pas appelé à la barre comme témoin. Et voilà qu'aujourd'hui tu recommences. Voilà que tu me jettes dans mon bureau la femme de ce forçat contre qui je vais requérir. Ma parole, quand je t'entends, quand je te regarde, tu me parais aussi folle qu'elle. » Folle, oui, Madame Martins pouvait l'être. Jour et nuit, elle attendait un événement, un incident, un secours du ciel qui eût tout à coup fait éclater cette vérité. Gisèle est la fille de Didier Daumont, la fille de Raoul de Saint-Dalmas. Et le jour du procès était venu, et cette vérité passait encore au regard de son mari pour une histoire à dormir debout. Comme une insensée, elle répondit à tous les reproches de l'avocat général par ces mots qu'elle répétait d'une façon presque farouche. « Et s'il disait vrai ? Si c'était sa fille ? Si c'était sa fille ?» Mais cette démence grandissante rejeta d'un seul coup M. Martins à son ordinaire attitude de magistrat, que rien ne saurait émouvoir que la froide raison. Il mit sa lourde serviette de maroquin sous son bras et prononça « Voilà bien les femmes. Dès qu'une hypothèse séduit leur sentimentalité, elles l'adoptent et sont prêtes pour elle à tout sacrifier. En me faisant de telles scènes, Juliette, vous troublez mon recueillement dont j'ai le plus grand besoin. Et en introduisant la femme de l'accusé chez moi, vous pouviez porter atteinte à ma réputation si elle n'était bien établie. Calmez-vous, je vous prie. Et attendez la fin de tout ceci, ici même, qu'on ne vous voie pas au palais de justice, qu'on ne vous voie nulle part. » Il partit. Il n'avait pas plutôt tourné le coin de la rue qui conduisait au palais que Madame Martin sortait à son tour en hâte et se jetait dans une auto de louage qui passait. Chapitre 29. Le procès. On s'écrasait dans la salle d'audience. Le tout Paris était là. On avait fait le voyage. On avait passé une nuit joyeuse dans les hôtels, comme faisaient les fêtards d'autrefois autour de la roquette, en attendant l'heure de l'exécution. Le président, qui était un fort brave homme et qui ne tenait point à se faire d'ennemis parmi tous ces personnages plus ou moins influents qui lui demandaient un mot de passe sur sa carte, en avait distribué à tout le monde ou à peu près. Aussi, l'atmosphère de la salle était-elle plus que surchauffée une heure avant l'ouverture des débats. On se montrait les principaux témoins qui avaient trouvé place devant le prétoire en attendant l'appel de l'huissier. L'entrée de Françoise souleva une telle vague de curiosité que quelques-uns furent comme submergés et firent entendre des cris d'étouffement. Cela commençait bien. Il y eut là du reste un premier incident. Françoise se présentait seule. Elle arrivait directement de chez M. Martins et avait encore cet air égaré avec lequel elle en était partie. Cette femme, tout le monde la plaignait. C'était la martyre. Au premier rang des bonnes amies assises, qui auraient été heureuses de jouer un petit rôle dans cette tragédie, il y avait Madame d'Erlan. Elle était placée sur le passage de Françoise. Sitôt qu'elle l'aperçut, elle se détacha du groupe auquel elle était en train de raconter des histoires terribles sur les mœurs de l'accusé, et elle fit un mouvement comme pour serrer Madame d'Aumont dans ses bras. Elle pensait qu'une démonstration aussi courageuse ne manquerait point de la mettre en valeur. Le malheur fut que Françoise, en la reconnaissant, ne put retenir une exclamation de dégoût et la repoussa avec une rudesse sauvage. « Vous osez ?» Et elle passa. On l'applaudit. Madame d'Erlan n'avait pas beaucoup d'amis. Elle frémit de cette manifestation hostile. Et dès lors, elle mena la cabale dans la salle d'audience, à la tête de tous ceux qui étaient persuadés de la culpabilité de Pallas. Déjà, deux camps se formaient, et les débats n'étaient pas encore commencés. Enfin, on annonça la cour. Le président prononça tout de suite une petite allocution pour recommander le calme. On fit l'appel des jurés. On ordonna d'introduire l'accusé, et Pallas parut entre deux gendarmes. Jamais il n'avait porté aussi haut la tête, même sous les balles. Il paraissait grandi. Il dominait. Il regarda la cour, le jury, ne vit point à ses pieds dans le prétoire Françoise, qui le fixait éperdument et qui n'avait plus la force de se soutenir. On dut l'emmener avant l'appel public des témoins, car elle défaillait. Et pendant qu'on entraînait la pauvre femme, elle fit entendre un sanglot si profond que toute la salle en fut remuée, et que Pallas, tressaillant tout à coup, abaissa son regard vers ce coin de foule en rumeur qui lui cachait l'épouse aimée et fidèle, celle qu'il avait fait tant souffrir et à qui il faisait, dans le moment même, gravir son effroyable calvaire, celle qui n'avait rien mérité de tout cela et dont la vie se serait écoulée heureuse, pleine de joie et de lumière, si elle n'avait pas rencontré un jour Pallas, échappé du bagne, qui avait mis sa main dans la sienne. En face de la vision foudroyante de cette injustice, il oublia que lui-même n'était qu'une victime du destin, et il s'accusa farouchement, il s'accusa tout haut. Ce furent ses premiers mots, ceux qui retentirent sur le seuil de ses débats à peine ouverts, alors que son interrogatoire n'avait pas encore commencé. « Mon seul crime, le voici. » Et ses doigts tremblants montraient la femme que l'on emportait. Puis il parvint à dompter cette émotion-là, encore, et fort de son calme revenu, ses yeux allèrent fouiller le fond de la salle, tout là-bas, dans le public debout. Mais sans doute ne trouva-t-il point de ce côté ce qu'il cherchait, car il ramena vers les magistrats un front assombri. Que faisait en ce moment chéri Bibi? C'eût été, en vérité, pensait alors Pallas, lui demander trop d'audace que d'exiger qu'il vînt en personne assister au milieu des gendarmes à ces débats. Alors, surtout, que tout était perdu, et que la police, instruite que de redoutables forçats étaient en ce moment en France, se livrait aux plus actives recherches pour le retrouver. On savait quelle amitié le liait à Pallas, là-bas, au bagne. On avait dû compter sur sa curiosité d'assister au débat pour préparer quelques souricières. Chéri Bibi avait eu vent de la chose et s'était garé. « Allons, allons, » soupira l'accusé. « Tout est bien consommé. » Il écouta la lecture de l'acte d'accusation avec un intérêt soutenu et visible. Tant d'autres affectent l'indifférence ou le repentir, mais lui, au fur et à mesure que les arguments s'accumulaient et paraissaient l'accabler, il marquait davantage cette espèce de défi qui était déjà sur sa face quand il avait pénétré dans la salle d'audience. Son regard devenait plus dur. Ses yeux avaient de la flamme en fixant la cour ou le jury. Assurément, il n'essayait point, par une tenue appropriée, d'exciter la pitié et la clémence de ses juges. Il avait refusé l'assistance d'un avocat. On avait dû lui en désigner un d'office. La fin de la première audience fut occupée par l'interrogatoire. Celui-ci ne démentit point une seconde l'attitude antérieure de l'accusé. Pallas répéta ce qu'il avait dit à l'instruction, ne se laissa démonter par aucune contradiction apparente, nia avec force ce qui paraissait l'évidence même aux esprits les moins prévenus, et soutint la plus mauvaise des causes avec une énergie sauvage qui augmentait l'indignation de la grande majorité du public persuadé de sa culpabilité. Quant aux autres, ils n'avaient plus, pour croire encore à son innocence, qu'à se rattacher éperdument à la sincérité de ses accents. Aussi ne s'en faisait-il point faute. Il y avait là, dans la salle, quelques-uns des anciens compagnons d'armes de Pallas, de ceux qui avaient pu le juger à ses œuvres, aux heures les plus dures passées ensemble. Ils se rappelaient cette force morale qui les avait aidés non seulement à repousser l'ennemi, mais à triompher d'eux-mêmes dans l'accomplissement d'un devoir qui exigeait tous les sacrifices. Ils se disaient qu'une valeur pareille était incapable de mensonge. Ils ne raisonnaient point cela, ils le sentaient. Et leur émotion débordait malgré eux, quand l'accusé, las de répondre à tant d'arguments qui le pressaient de toutes parts, les balayait tous d'un geste large, et s'asseyait, après avoir lancé ses derniers mots en conclusion à un interrogatoire qui l'excédait, « S'il ne s'agissait que de moi, il y a longtemps que je vous aurais abandonné une vie qui m'est odieuse. » Mais ce que je défends ici, c'est l'honneur d'une femme, c'est l'honneur d'un nom. Je proclame que je n'étais indigne ni de l'un ni de l'autre.
Oui, je me suis échappée pour me refaire une vie. J'ai pu croire un instant que se levait pour moi l'aurore d'une existence nouvelle. Hélas, le destin qui m'a frappée aveuglément il y a 15 ans me retrouve aujourd'hui et m'accable. Mais pour le passé, pour le présent, je suis innocent de tout. » Là-dessus, l'audience fut levée et remise au lendemain. En quittant son siège, l'avocat général Martins ne put s'empêcher de laisser glisser entre ses lèvres minces ce mot qui en disait long sur son état d'âme vis-à-vis de l'accusé. « Comediante !» Le mot fut entendu de quelques jurés qui sourirent. Tout de même, ils étaient émus. « Ah, il parle bien !» fit l'un d'eux en quittant le palais de justice. « Je ne m'étonne pas qu'il ait toutes les femmes pour lui. » Pallas avait toutes les femmes pour lui, moins Madame d'Erlan. Celle-ci trouva le moyen de se rencontrer avec M. Martins qui regagnait son domicile. Ils se connaissaient, ils firent un bout de route ensemble. Sans doute la conversation fut-elle des plus intéressantes, tant est qu'au moment de se séparer, l'avocat général dit à l'honorable dame « Dommage que vous ayez assisté publiquement à cette première audience, mais qu'importe, on peut toujours vous entendre. » « Ah, pardon, c'est que je n'y tiens pas du tout !» répliqua vivement Madame d'Erlan. « Et j'ai été trop l'amie de Françoise pour venir apporter un témoignage qui ne serait pas de son goût, puisqu'elle veut sauver à toute force ce misérable. Mais je dois vous dire que je n'ai pas été la seule à assister au fait que je vous apporte. J'étais avec une amie, Mademoiselle Beauvais, qui en sait aussi long que moi, et qui n'a aucune raison pour se taire, elle. » En arrivant chez lui, l'avocat général était d'une humeur charmante. Il demanda à voir sa femme. Son domestique lui apprit qu'elle était sortie, le matin même, derrière lui, et qu'on ne l'avait pas revue depuis. Sur son bureau, M. Martins trouva une lettre de sa femme, qui lui disait que, puisqu'il désirait qu'on ne la vît nulle part, elle s'absentait pendant quelques jours. Chapitre 30. La cachette de Nina Noah. Une personne qui suivait de près, bien qu'elle fût restée à Paris, les étapes du procès d'Aumont était Nina Noah. Depuis l'arrestation de Gorbiot, elle vivait dans les transes les plus vives. L'affaire du comte ressortissait des tribunaux militaires et la danseuse avait été l'un des premiers témoins appelés à l'instruction. Ce n'était pas sans une profonde angoisse qu'elle s'était rendue à cette convocation, qu'elle attendait du reste, et qu'elle n'eût pu éviter que par la fuite, événement qu'elle préparait à tout hasard. Ses amis, qui étaient généralement bien renseignés, lui avaient dit alors qu'elle n'avait rien à craindre, puisqu'elle n'avait rien à se reprocher. Gorbiot en avait trompé d'autres qu'elle. Et l'on ne pouvait décemment point s'étonner qu'elle ne se fût point doutée du commerce criminel du comte, quand un homme comme M. de la Boulay, pendant des années, n'y avait vu que du feu. De ce fait, tout s'était passé sans accroc pour Nina. Ses rapports avec le comte avaient été de pure amitié, affirma-t-elle, et jamais la conduite de celui-ci ne lui avait permis de douter de son patriotisme. Il ne cessait du reste de répéter qu'ayant mis toute sa fortune dans les usines de guerre, la défaite de la France le ruinerait. Voilà tout ce qu'elle pouvait dire de Gorbiot. Enfin, les amis de la danseuse pouvaient encore attester que le comte et elle étaient en froid depuis quelque temps et qu'elle avait résolu de le quitter, ce qu'elle n'eût point manqué de faire si la police lui en avait laissé le temps. Nina n'avait pas plutôt quitté le cabinet du magistrat militaire chargé de l'instruction dans l'affaire Gorbiot qu'elle avait dû se rendre devant le juge qui dirigeait l'enquête dans le procès d'Aumont. La démobilisation du capitaine étant un fait acquis lors du drame de l'auberge des Pins, c'est devant la cour d'assises que devait passer Pallas, et ce fut à un magistrat civil qu'eut affaire Nina Noah. Il ne fut guère plus méchant que l'autre. On savait qu'à Nice, Daumont avait rendu visite à la danseuse. Cette visite, Daumont ne l'avait pas niée, au contraire, et il en avait donné la raison.
qu'est-ce que c'est que cette histoire de collier ?
Avait demandé le juge à Nina.
Celle-ci avait souri. Le pauvre garçon, il avait perdu tout à fait la tête. Je n'ai pas besoin de vous dire que je l'avais reconnu du premier coup. J'aurais pu le dénoncer. Pour rien au monde, je ne l'aurais voulu. Il s'était refait une vie, tant mieux pour lui. Tout de même, j'ai été obligée de le mettre à la porte quand il est venu me dire qu'un collier que j'avais porté à la fête de Valrose ressemblait beaucoup à celui que l'on avait volé au banquier Reynaud le jour de son assassinat. Innocent ou non, je ne tenais pas à ce qu'il vînt m'excéder avec ses hallucinations.
Nina avait préparé toute une petite histoire pour le cas où le juge lui demanderait à voir le collier. Elle n'eut pas l'occasion de s'en servir. Le magistrat, en effet, n'avait pas à s'occuper d'une affaire qui avait été jugée, et, pensait-il, bien jugée, 15 ans auparavant. Après avoir adressé quelques reproches, qui avaient tout l'air d'être des compliments, à cette jolie femme qui n'avait point voulu se faire l'auxiliaire de la justice, le juge reconduisit fort aimablement le témoin jusqu'à la porte de son cabinet. Nina ne l'avait plus revue. Tant de tranquillité dans cette double affaire l'avait d'abord rassurée, puis surprise, puis inquiétée, d'autant plus qu'elle avait pu croire, dans ces derniers temps, qu'elle était surveillée. Elle s'imagina bientôt qu'on ne l'avait si bien épargnée que pour mieux endormir sa méfiance. C'est la tactique habituelle dans ces sortes d'affaires. On s'empare du principal coupable, mais on laisse toute liberté à son complice, dont les démarches imprudentes serviront l'instruction. Et un beau jour, quand on tient enfin tous les fils, on boucle tout le monde. Aussi Nina avait-elle redoublé de précautions. Tout de même, elle sentait qu'il était grand temps de partir, et si elle n'avait craint d'être arrêtée à la frontière, elle aurait été garée depuis plusieurs semaines. Finalement, elle avait tout arrangé pour que son départ ne parût suspect à personne. Le jour que nous la retrouvons à Paris, qui était aussi le premier jour du procès d'Aumont, elle avait fait ostensiblement les préparatifs d'un voyage dont tout le monde était instruit. Il s'agissait pour elle d'aller déposer en cette cour d'assises de province où l'avocat de la défense l'avait fait citer. Cela devait lui prendre 24 heures. Elle jouait le soir, elle rejouait le surlendemain. Ce qu'elle ne disait pas, c'est qu'en cours de route, elle devait quitter à contre-voie le train à certains endroits où la marche du convoi était fort ralentie et se jeter dans une auto qui lui ferait franchir la frontière avant qu'on ne se fût aperçu de sa fuite. À 5 heures du soir, Nina revenait d'une répétition générale donnée en matinée à l'Odéon et à laquelle elle avait tenu à se montrer pour que chacun fût juge de sa sérénité dans ces heures difficiles où les bruits les plus redoutables commençaient à courir sur sa complicité avec Gorbiot. Et elle rentrait chez elle quand elle fit soudain arrêter son auto. On criait sur les boulevards les journaux du soir et les camelots passaient en agitant des feuilles où s'étalaient d'énormes titres sur le procès d'Aumont. « Dernière nouvelle ! Incident d'audience ! L'interrogatoire de l'accusé !» Elle se pencha hors de sa voiture pour acheter un journal. Dans le même moment, une auto qui suivait de près la limousine, surprise par l'arrêt brusque de celle-ci, frôla la main de la danseuse dans une embardée assez maladroite. Nina poussa un léger cri et regarda les gens qui étaient dans l'auto. Elle pâlit aussitôt et se rejeta dans sa voiture. Elle avait reconnu le policier qui avait arrêté Gorbiot. Quand elle descendit de son auto devant le petit hôtel qu'elle habitait au coin de l'avenue du Bois de Boulogne, Nina jeta un regard rapide sur les environs. Elle ne découvrit rien de suspect, l'auto du policier avait disparu. Il n'y avait peut-être eu là qu'une rencontre fortuite. Elle ne voulut point l'espérer. Se confirma dans cette idée qu'elle avait depuis quelque temps, que la police ne la perdait pas de vue et que l'on n'attendait qu'une occasion peut-être pour s'assurer de sa personne.
Elle devait prendre le train le lendemain matin à 8 heures. Elle regretta de ne point partir le soir même. Mais c'eût été donné l'éveil. Son salut, elle en avait maintenant le sentiment absolu, résidait tout entier dans le sang-froid qu'elle montrerait jusqu'à la dernière minute et dans l'exécution normale et tranquille d'un programme que la police connaissait dans tous ses détails. Elle pensa encore que l'on avait peut-être résolu de l'arrêter en pleine cour d'assises après sa déposition. Cette imagination la réconforta. Quand on l'attendrait en cour d'assises, elle serait déjà loin. Ayant jeté un coup d'œil sur les trottoirs, elle tressaillit encore. Elle avait vu 2 agents. Elle laissa retomber son rideau, se traitant d'idiote. 2 agents qui se promènent dans une rue, cela n'a rien d'exceptionnel. Ce n'était pas la première fois qu'elle envoyait rue Le Sueur. Elle avait la fièvre, elle ne put manger. Elle attendait, pour la conduire au théâtre, le jeune Darcy, son dernier flirt, celui que la rumeur des coulisses avait donné comme successeur à Gorbiot. Il ne vint pas. Est-ce que celui-ci allait l'abandonner comme tant d'autres déjà, qui trouvaient de singuliers prétextes pour se détourner de son chemin? Ah, elle aurait dû quitter la France depuis longtemps. Elle en voulait férocement à ceux qu'elle servait depuis tant d'années dans l'ombre, d'avoir exigé d'elle qu'elle restât ainsi jusqu'au dernier jour, exposée à toutes les catastrophes. Est-ce que tout n'était pas perdu depuis l'arrestation de Gorbiot? Parbleu! Puisqu'en effet tout était perdu et qu'on ne pouvait plus rien attendre d'eux, les gens de là-bas se débarrassaient du même coup d'elle. Elle trembla. Elle eut une vision terrible. Les conseils de guerre n'épargnaient pas les femmes. Il y avait eu des exemples retentissants. Le poteau d'exécution à Vincennes. Et dans la brume froide du matin, une silhouette élégante de femme, jeune encore, qui s'abattait, criblée de balles. « Mon auto » commanda-t-elle d'une voix rauque. Dans la rue, les agents avaient disparu. Devant le théâtre, au théâtre, rien. Et puis, l'heure n'était-elle point passée maintenant? Est-ce qu'elle était passée, l'heure, quand on avait arrêté Gorbiot? Ne pouvait-on prétendre à la saisir, partout, en flagrant délit de travail pour les boches? Elle essayait de raisonner. Elle ne faisait que divaguer. Elle ne retrouva en une seconde tout son sang-froid que devant son habilleuse qui lui disait « Oh, mais madame est malade !»« Monsieur Darcy n'est pas venu ?»« Non, madame, personne !» Elle ne vit point dans sa loge les fleurs que le jeune homme lui envoyait tous les soirs. Elle se rappela un incident pareil le soir de l'arrestation de Gorbiot, et elle en conçut un mauvais présage. Oui, oui, celui-ci l'abandonnerait comme les autres. Elle pensa encore que le public, depuis quelques jours, se montrait assez froid à son égard. Tout à coup, la porte de la loge s'ouvrit et Darcy parut. Il était très pâle. Nina vit tout de suite qu'il savait quelque chose de nouveau. Elle éloigna son habilleuse. Et l'autre la renseigna immédiatement. « On vous arrête demain matin. » Nina Noah reçut le coup avec courage, demanda des détails, voulut tout savoir. Darcy ne lui cacha rien. Il tenait l'affaire d'un attaché de cabinet qui était un ami intime et qui s'était documenté pour prouver à Darcy qu'il avait tort d'entretenir des relations avec Nina Noah, laquelle était plus que suspecte. « Pourquoi m'arrête-t-on? Le savez-vous? Gorbiot prétendait-il me mêler à ces histoires ?» « Je crois pouvoir vous affirmer que Gorbiot n'a rien dit contre vous, et j'ai cru comprendre que si l'on vous arrêtait, c'était dans l'espoir que vous accableriez Gorbiot. On vous arrêterait pour que vous mangiez le morceau, quoi. Mais je ne suis pas la complice de Gorbiot, moi. C'est ce que j'ai toujours dit. Si je ne vous savais pas innocente, je ne serais pas ici, Nina, vous le savez bien. Écoute, mon petit, tu m'aimes bien, hein ?» « Si je vous aime, Nina !» Et il la dévorait de ses yeux pleins de larmes. Le malheureux n'avait encore rien obtenu de la danseuse, et on allait la lui arrêter le lendemain matin. « Eh bien, puisque tu m'aimes et que tu crois à mon innocence, je vais te récompenser, en te prouvant, en effet, que je n'ai rien à redouter. Nous allons passer ma dernière nuit de liberté ensemble, Darcy. »
Oh, Nina, Nina, ma Nina!
Il était tombé à ses genoux et lui embrassait les mains.
« Vite, debout !» commanda-t-elle. « Soyons calmes. Faisons comme si nous ne savions rien. Ne pensons qu'à notre amour. »«
Bien, bien !» fit Darcy, qui étouffait de joie maintenant. « Je ferai tout ce que vous voudrez. Je suis votre esclave. Si vous voulez fuir, je vous suis à l'étranger. Et si l'on vous arrête, on m'arrêtera avec vous. »
Il ne s'agit pas de fuir, il s'agit d'abord de souper. Vous allez retenir une table chez N.
Comment ? Vous voulez aller ce soir dans cette boîte clandestine ?
Dame, puisqu'officiellement on veut que nous nous couchions comme les poules.
Les poules ont quelquefois raison, opina Darcy en rougissant jusqu'à la racine des cheveux.
Mon petit, je te comprends, mais comprends-moi aussi.
Demain, moi, je ne danserai pas le tango, n'est-ce pas? Eh bien, saute dans mon auto et va chez N, de ma part. Commande-moi un menu spécial comme tu sais les faire et reviens ici le plus tôt possible. À tout à l'heure, mon chéri, je t'attends avec impatience.
Il partit, la billeuse rentra.
Prenez une voiture, lui dit-elle, et allez me chercher un cachet à la pharmacie. J'ai un mal de tête fou.
Restée seule, elle se jeta sur un bahut qui était fermé à clé, l'ouvrit et, sous un tas d'oripeaux de théâtre, ramassa une sorte de boléro dont elle s'empressa de découdre la doublure. Elle en retira une perle d'une forme singulière et quelques vieux papiers. C'était là, entre autres documents très précieux, les preuves de la culpabilité de Gorbio dans l'affaire de l'assassinat Reynaud. Elle ne pouvait les laisser là. Elle résolut d'aller les porter dans cette cachette mystérieuse où Gorbio avait déjà déposé le collier et où se trouvaient également des papiers qui intéressaient fort les deux complices. Les événements se précipitaient de telle sorte qu'il eût été de la dernière imprudence pour Nina d'emporter avec elle à l'étranger, comme elle l'avait espéré, tant de pièces compromettantes pour tout le monde. Elle pouvait être arrêtée d'un moment à l'autre dans la fuite difficile qu'elle allait tenter. La cachette de Gorbio défiait toutes les recherches. Seulement, il fallait pouvoir s'en approcher. Parmi les oripeaux qu'elle avait sortis du coffre se trouvait une défroque complète de machiniste de théâtre avec sa casquette. Elle s'en revêtit en hâte, fit aussitôt glisser la planchette qui obstruait le judas pratiqué dans la porte de sa loge. Elle attendit de ne plus voir personne dans le couloir mal éclairé pour s'y jeter. Une minute plus tard, elle était dans la rue. Elle la remonta tranquillement, la casquette sur le nez, les mains dans les poches, comme un brave ouvrier qui a sa conscience pour lui, l'ayant convenablement réchauffé avec les camarades chez le bistrot la journée faite. Personne ne suivait l'ouvrier. De fait, Nina Noah avait dépisté tout le monde, son amant, son habilleuse et la police. Elle commença de respirer. Tout était loin d'être perdu. Elle arriva au coin de la rue de Dunkerque. C'est là, on se le rappelle, que se trouvait l'un des domiciles du comte. Domicile où la police avait sérieusement perquisitionné, sans avoir rien trouvé du reste. Car la police ignorait encore que les dépendances de l'immeuble étaient autrement intéressantes à visiter que l'appartement lui-même. Notre ouvrier machiniste glissa sur le trottoir près de la porte du Mastroquet. Encore, autant qu'il put en juger, le cabaret était vide, les volets fermés et peu de lumière. Aucun bruit. Quoi d'étonnant à cela ? Depuis l'arrestation de Gorbio, la clientèle spéciale qui faisait le fond de la clientèle avait dû se garer ailleurs. Nina Noah descendit jusqu'à la boutique de l'antiquaire et frappa d'une façon spéciale. Le bonhomme ne tarda pas à lui ouvrir. Elle pénétra rapidement dans le magasin et ferma la porte. L'antiquaire ne l'avait pas reconnue. Il dirigea sur ce visiteur inattendu
le jet d'une lanterne sourde et montra qu'il était armé. Nina souleva sa casquette, l'antiquaire recula, stupéfait. « Oui, c'est moi, pas une minute à perdre. Quoi de nouveau ici ?»«
La police est revenue il y a quelques jours, mais ça n'était pas pour nous, » déclara l'antiquaire.
« Eh bien, tant mieux. C'est à cause de l'histoire d'un certain chéri Bibi. »«
Quelle histoire ?»«
Paraît que le fameux bandit s'est échappé du bagne et qu'on l'aurait vu rôder par ici. »
« Eh bien qu'il cherche chéri Bibi et qu'il nous fiche la paix. Conduis-moi à la cave !» ordonna Nina.
L'antiquaire souleva la trappe de son arrière-boutique, comme il avait déjà fait devant Yo-Yo, et Nina descendit quelques marches. Elle lui prit sa lanterne sourde des mains et commanda « Attends-moi ici !» La police n'était pas mal renseignée en cherchant chéri Bibi aux environs de la rue de Dunkerque. La vérité était que depuis des semaines, chéri Bibi, la ficelle, Yo-Yo et Zoé se relayaient dans les caves où ils étaient sûrs que se trouvait la fameuse cachette de Gorbio. Quand chéri Bibi était reparti un instant pour le midi en menant toute sa troupe active avec lui, il avait eu grand soin de laisser en ce mystérieux endroit une sentinelle sûre, capable de le renseigner sur les moindres événements. Or, depuis la visite de Gorbio dans sa cave, lorsque le comte était venu s'y débarrasser du collier, rien de nouveau ne s'était produit. Chéri Bibi avait espéré qu'un émissaire de Gorbio ou de Nina descendrait bien quelques jours ou quelques nuits dans ses sous-sols, et ne se doutant point qu'il était épié, finirait par trahir le secret de la cachette. Or, les semaines s'étaient écoulées, le procès de palace commençait et chéri Bibi en était toujours au même point. Le bandit avait un chemin à lui maintenant pour pénétrer jusque dans ses caves. Ce soir-là, il avait décidé que c'était la dernière nuit qu'il consacrait au sous-sol de la rue de Dunkerque. Il était résolu à partir le lendemain, même les mains vides, et à prendre le train pour les lieux où se décidait le sort de palace. Une dernière rage le faisait tout retourner, tout creuser, tout fouiller. Le sol, le moellon des murs, tout avait été bouleversé. La ficelle n'en pouvait plus. Yo-Yo était excédé. Zoé donnait à boire dans un godet à la petite troupe épuisée. Car dans leur malheur, ils avaient au moins cette consolation que le vin du comte était bon. Il était même excellent. Il y avait même une certaine barrique à laquelle la ficelle avait fait l'honneur d'une chantepleur où il puisait à l'ordinaire plus que de raison. Des fois, il apportait là son dîner, un quignon de pain et un morceau de cervelas, et, ma foi, avec la piquette du comte, il parvenait à oublier bien des choses. Sa boutique de la rue Saint-Roch, l'irascible Virginie, les sourires de Zoé à Yo-Yo, et l'incompréhensible obstination de chéri Bibi à les faire vivre dans une cave qui ne pouvait plus avoir pour eux aucun secret. Tout à coup, Yo-Yo sursauta sur ses pattes, les oreilles dressées comme un chat. Chéri Bibi aussi avait entendu. On descendait l'escalier de l'antiquaire. Et puis, il y eut une lueur. Les quatre compagnons disparurent en une seconde dans une cave adjacente, d'où ils pouvaient tout voir. D'abord, ce fut une ombre qu'ils prirent pour celle d'un homme et qui s'était arrêtée à la porte qu'ils venaient d'ouvrir. L'état de la serrure lui paraissait suspect, de toute évidence, bien que l'on eût fait le possible pour que l'on ne soupçonnât aucune effraction antérieure. Sous le coup de cette découverte, l'ombre pénétrait vivement dans la cave, anxieuse certainement de ce qu'elle allait découvrir. On avait passé par là, on avait peut-être trouvé la cachette. Chéri Bibi sentit son cœur se gonfler d'un espoir prodigieux. Il venait de reconnaître Nina Noah. Celle-ci, maintenant, promenait le jet lumineux de sa lanterne sourde sur tous les coins du sous-sol. Constatait que l'on n'avait pas laissé sans le fouiller un centimètre carré de terre. Et puis tout à coup, elle disait tout haut « Les imbéciles, ils n'ont rien trouvé !» Chéri Bibi fut d'autant moins vexé de cette réflexion qu'il savait qu'elle ne pouvait s'appliquer à lui, mais à la police, pour laquelle, du reste, il n'avait lui aussi qu'une considération mitigée. Haletant, et plus ému peut-être que Nina, il vit cette dernière se diriger, sans hésitation cette fois, vers un coin du caveau, le coin où il y avait la barrique chère à la ficelle, la barrique où, tout à l'heure encore, Chéri Bibi lui-même se désaltérait. Nina posa sa lanterne sur cette barrique, puis, écartant sa veste de machiniste, elle retira de son corsage les papiers et le petit étui qui enfermait la perle. Elle posa encore le tout sur la barrique. Enfin, à deux mains, elle se mit à tirer le large bouchon de bois de la bonde. La bonde vint à elle, mais c'était une singulière bonde, si longue, si longue. Une bonde qui commençait par un bouchon et qui se continuait par un tube de cuivre, lequel tube plongeait à l'ordinaire dans le vin. Chéri Bibi et la ficelle eurent besoin de tout leur sang-froid pour ne pas laisser échapper une sourde exclamation. Maintenant, ils comprenaient. Le collier qu'ils cherchaient se trouvait dans le vin qu'ils buvaient. Et ils pouvaient secouer la barrique. Elle ne rendait toujours qu'un son de liquide remué. Ils eurent encore tout le loisir de constater que ce tube contenait également de précieux documents que Nina sortit, qu'elle examina, puis elle entassa le tout à nouveau dans le tube, ce qu'elle en avait sorti, collier et documents, et aussi ce qu'elle avait apporté. À ce moment, elle parut réfléchir, se demandant de toute évidence s'il était bien prudent de continuer à confier de tels trésors à une cave aussi visitée. Or, il arriva que s'étant demandé cela, elle n'eut point à fournir de réponse à sa pensée, car quelque chose de formidable s'abattit sur elle, et avant même qu'elle eût poussé un cri, elle n'avait plus dans les mains cette bonde précieuse qui contenait tant de secrets. Nina avait reculé sous le choc jusqu'au mur de la cave qui séparait celle-ci du caveau du mastroquet. La porte en était entr'ouverte. Elle se jeta par là, folle de terreur, repoussa la porte, tira un verrou, pensa qu'elle avait au moins la vie sauve. Elle gravit en hâte l'échelle qui conduisait à la trappe du cabaret et frappa de toutes ses forces. Elle savait que là, elle allait trouver du secours. La trappe, en effet, se souleva. Nina Noa bondit dans la pièce qui s'éclaira tout à coup. « Je te dis que nous le tenons !» fit aussitôt une voix rude. Nina, en effet, était à nouveau agrippée. On lui éclairait le visage. « Nom de Dieu ! C'est une femme ! Et tu sais, mon vieux, elle ne ressemble pas à Chéri Bibi !»« Non, mais elle ressemble bigrement à Nina Noa. La prise est bonne tout de même !» Nina Noa fit entendre un rugissement de rage. On lui mettait les menottes.